C'est le feuilleton média de cette rentrée. L'annonce mardi dans le Figaro du départ de la star du 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut, et ses 40% de part de marché, performance unique en Europe. Évidemment, tout le monde s'est posé la question de savoir qui allait lui succéder. Et là encore, c'est le Figaro qui a donné le nom, aussitôt confirmé par TF1. Marie-Sophie Lacaro, TF1 a carrément piqué à France 2 la titulaire du 13h concurrent. C'est du poste pour poste, du jamais vu dans l'histoire de la télévision française. Pour faire quoi? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir avec vous, Thierry Tullier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'information du groupe TF1. Merci d'avoir choisi Culture Média pour votre première intervention radio, pour expliquer vos choix. Vous êtes très écouté, y compris par vos propres troupes. Avant qu'on parle de l'arrivée de Marie-Sophie Lacaro, d'abord un mot du départ de Jean-Pierre Pernaut. Officiellement, c'est lui qui a souhaité abandonner son fauteuil du 13h. Vous confirmez?
Oui, je confirme. C'est une discussion que nous avons eue avant l'été ensemble, à la sortie du confinement, qui l'a fait beaucoup bouger, beaucoup réfléchir. Et puis, on s'est dit...
Il avait un peu abandonné son siège. Jacques Legros était présent en plateau et lui-même faisait une séquence depuis chez lui.
Exactement. On avait tenu d'ailleurs ensemble, tous les deux, à ce qu'il soit maintenu à l'antenne. Pour moi, c'était très important parce que je voulais qu'il revienne. Enfin, bon, voilà, ça a accéléré peut-être une réflexion. Et c'est vrai qu'on a décidé ensemble que ce serait le bon moment, surtout qu'il est au sommet de sa popularité, au sommet de ses audiences, ce qui d'ailleurs fixe un peu l'enjeu que nous avons pour l'avenir. Et donc voilà, il a pris cette décision. Je vous cache pas que dans la com, c'est allé un peu plus vite que nous l'avions imaginé.
Évidemment, parce qu'il y a une fuite du Figaro et vous êtes obligé de rattraper le Figaro en confirmant l'information. C'était mardi dernier, d'où l'accélération du calendrier. Jean-Pierre Pernaut a annoncé qu'il restait au 13h jusqu'au 18 décembre. Pourquoi une décision aussi rapide de la personne qui va le remplacer, en l'occurrence Marie-Sophie Lacaro?
Parce que précisément, comme vous êtes un observateur très fin de l'actualité des médias, vous voyez qu'il y a eu un concours de beauté avec tous les candidats potentiels qui n'ont pas été d'ailleurs contactés.
Plus d'une dizaine de noms.
Voilà. Et donc, je me suis dit que ce soit en interne ou en externe, il valait mieux aller vite. Parce que sinon, ça aurait créé soit des espoirs qui auraient été déçus, soit des fausses pistes. Et je pense que c'est pas bon ni pour les personnes concernées, ni pour TF1, d'où cette décision rapide.
Mais est-ce que c'est l'indiscrétion du Figaro que tu déclenchais ou... Dans le cas contraire, vous auriez gardé le nom secret jusqu'au 18 décembre, ou peu s'en faut?
Non, on aurait dévoilé ce nom forcément avant, dans la mesure où on pensait, avec Jean-Pierre, communiquer plutôt entre début octobre et mi-octobre.
Ouais. Voilà. Pourquoi ce choix de Marie-Sophie Lacaro? D'abord, ça fait combien de temps que vous y pensez?
Alors, on a regardé avec Gilles Pélisson et Ara Prican est le patron des contenus et Gilles, évidemment, le patron de TF1. C'est une décision qu'on ne peut pas conduire tout seul dans son coin du directeur de l'info. Ça concerne l'antenne, c'est un enjeu énorme, vous l'avez rappelé avec les audiences. Et donc, on a regardé toutes les options possibles en interne et externe. Et effectivement, elle est apparue comme s'imposant assez naturellement, du fait de plein de facteurs. D'abord parce qu'elle conduit avec succès d'ailleurs, même si elle est loin de TF1, mais avec un certain succès à l'échelle de France 2, son journal de 13h, mais auparavant, les journaux régionaux d'A3, le journal national de A3, donc elle a cette expérience d'un journal, d'une chaîne généraliste.
Je voudrais vous interrompre 30 secondes pour pas changer de sujet. Marie-Sophie Lacaro était venue dans Culture Média le 25 juin dernier et je l'avais interrogée au sujet de ses bonnes audiences. Je vais rappeler que quand elle est arrivée au 13h, il y a 4 saisons, elle avait grappillé un point puis un autre à Pernaut. D'où ma question, vous en êtes où? Est-ce que vous avez réussi à gratter des parts de marché avec le confinement? Réponse de Marie-Sophie Lacaro.
On gratte toujours et là je viens d'apprendre par les services des audiences, enfin ceux qui observent tout ça, que pour la première fois, l'écart entre les deux journaux de TF1 et France 2 pour le 13h est passé sous la barre des 20. C'est là toute première fois, donc on est très content. Évidemment, l'écart reste considérable.
La barre des 20, c'est quand même prodigieux. Ils ont 20 points d'avance sur vous.
Mais oui, c'est considérable. On est d'accord, on va pas nier ça. Mais pour la première fois, nous sommes passés sous la barre des 20.
Évidemment, ça ne vous a pas échappé. Et c'est vous qui aviez remarqué Marie-Sophie Lacaro quand elle était en région.
À Toulouse, et j'avais proposé de venir à Paris pour présenter le 19-20 national, puis être joker du journal de 13h d'Élise Lucet à l'époque. Puis après, je suis parti, elle a continué sa progression. Donc, expérience, proximité avec les régions, pas besoin de rappeler d'où elle vient du sud-ouest, c'est une Occitane, elle est très attachée à la vie des régions, et pour nous c'est important compte tenu du format spécifique du 13h. Et puis c'est quelqu'un d'adorable que je connais assez bien, et je sais qu'elle va se fondre sans aucun problème dans la culture 13h de TF1, et même au sein de cette rédaction, qui a d'ailleurs plutôt bien reçu l'annonce de son arrivée.
Et aussi vous faites le coup de Berlusconi, le patron du Milan AC, quand il avait piqué Papin à l'OM, vous vous souvenez de cette histoire ou pas? Il avait piqué pour deux raisons. Il avait engagé Jean-Pierre Papin à l'OM pour l'avoir dans son équipe et aussi pour être certain de ne jamais tomber contre Papin puisqu'il était avec eux. Quand bien même était-il remplaçant, il ne tombait plus contre Papin. Donc là, vous avez piqué, si j'ose dire, Marie-Sophie Lacaro à France Télévisions.
Alors, c'est pas la raison de ce choix. La raison de ce choix, je voulais expliquer. Puis, je voulais aussi saluer Laurent Guimier parce que c'est vrai que c'est mon premier coup de fil que je vais passer finalement depuis son arrivée. C'est un coup de fil désagréable pour lui et je me mets à sa place, c'est jamais agréable. Donc voilà, je suis désolé évidemment pour mes camarades de France Télé, mais bon, voilà, c'est la vie des entreprises.
Un mot du timing, quand vous l'avez appelé, il était au courant ou il n'était pas au courant? C'est vous qui lui avez appris?
Non. La logique et j'ai dirais la politesse, c'est quand même que Marie-Sophie Lacaro lui ait annoncé sa décision et dans la foulée, je l'ai appelé pour évidemment le saluer et essayer de voir ce que nous pouvions faire ensemble en termes de communication, mais c'était déjà trop tard, l'information était partie, donc voilà.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Tu me sabonnes la planche à peine d'arriver.
Non, il n'a pas dit ça. Il en prend acte et puis voilà et puis il fait avec et puis ensuite il faut qu'il gère toute la rédaction et les annonces. Donc je l'ai laissé et je pense que j'aimerais qu'on puisse se parler d'une manière plus sereine après ces événements.
Ouais, parce qu'il a fait un tweet en disant les meilleurs talents sont sur France 2. Sous-entendu, elle perd son talent en allant sur TF1.
J'ai pas pris ça comme ça. J'ai plutôt vu comme une reconnaissance du choix que nous avons fait.
Et est-ce que Gilles Pélisson a appelé Delphine Ernotte? Comment ça se passe dans ces cas-là? On a envie d'être la petite souris et de...
Écoutez, dans ces cas-là, je pense que le plus important, c'est de la correction, une forme, je le répète, de politesse entre grandes entreprises. C'est pas une habitude. Vous l'avez dit vous-même, c'est assez rare. Et donc oui, Gilles a appelé Delphine Ernotte. Ils ont échangé ensemble. Je peux pas vous dévoiler ce qui s'est dit. Enfin, en général, c'est assez bref. C'est une information qui est donnée, un échange rapide, et puis ensuite, écoutez, la vie de nos entreprises reprend.
On fait une pause rapide, vous restez avec nous Thierry Tullier, on a encore plein de questions à vous poser, notamment, que va faire Marie-Sophie Lacaro au 13h de TF1? Est-ce qu'elle va tout chambouler? On a bien compris que non, mais comment va-t-elle inscrire sa patte? On vous raconte ça tout de suite.
Vandel.
En compagnie de Thierry Tullier, le directeur de l'information du groupe TF1, on parle du départ annoncé de Jean-Pierre Pernaut du 13h de TF1. Ça sera le 18 décembre, il y aura ensuite une petite pause, voilà, dans le trêve des confiseurs, il sera remplacé par Jacques Legros. Et puis Marie-Sophie Lacaro, si je me souviens bien, va démarrer le 4 janvier 2021. Vous avez déclaré jeudi à vos équipes, vous et elle, c'est un alliage qui va cartonner. Et vous avez également demandé à vos équipes de l'accueillir avec bienveillance, parce que c'était pas gagné?
Non, c'est une rédaction très bienveillante, justement, celle de TF1. Mais quand vous avez un choix qui prend un peu par surprise l'ensemble des journalistes, il est normal qu'il puisse avoir une réaction assez simple sur le thème. Mais pourquoi il n'est pas allé chercher un talent en interne?
Ça va être ma question suivante. Pourquoi pas avoir fait monter quelqu'un de la rédaction, comme ce fut le cas, je le dis, par exemple, pour les gens qui sont moins au courant que vous des affaires des médias, pour Gilles Boulot, qui était grand reporter et qui présente le 20h, ou Anne-Claire Coudray, qui présente les gens du week-end et qui vient de LCI. Il n'y avait pas assez de talent en interne, ni sur TF1, ni sur LCI.
Il y a des talents incontestables et des grands talents qu'on voit d'ailleurs sur LCI et même sur effectivement TF1 qui d'ailleurs opère parfois dans des pages spéciales des journaux, mais on n'a pas, je vous ai fait le portrait de Marie-Sophie et des raisons du choix, mais qui n'ont pas ces talents, à date en tout cas, autant d'expérience et avec le profil proche des régions que je vous ai décrit et qui à mon avis, nécessite justement d'avoir des épaules très solides, une grande expérience et cette proximité encore une fois avec les territoires pour pouvoir réussir et relever ce défi. Voilà, c'est assez simple de le penser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de talent en interne, ça veut dire que ce talent-là à 13h, nous ne l'avions pas tout de suite, en tout cas, préparé pour prendre la relève de Jean-Pierre Pernaut.
Que va-t-il se passer maintenant pour Marie-Sophie Lacaro? Si j'ai bien compris, elle va faire le tour des régions, le tour des correspondants.
Pour nous, c'est important parce que, comme vous l'avez indiqué, on ne change pas le format du 13h. Le 13h est un format qui fonctionne très bien. Il a été longtemps raillé. Aujourd'hui, il est envié par beaucoup de personnes. Et donc, on va le préserver avec, évidemment, la singularité de la personnalité de Marie-Sophie. Mais pour autant, il faut que Marie-Sophie, justement, fasse un peu sa grande tournée, fasse connaissance avec le réseau de correspondants qui a fait le succès du 13h. Et donc, dès son arrivée, mi-octobre, début novembre, elle va rencontrer tous les correspondants dans leur région et aller au contact pour qu'on lui passe le témoin. Vous savez, la notion de passation de témoin, qui est d'ailleurs le thème retenu par Jean-Pierre, est très important parce qu'on ne veut pas de rupture. On veut quelque chose qui se passe naturellement et du mieux possible. Et donc, c'est vrai que ce préambule et ce préalable-là, qui est la visite finalement sur le terrain de Marie-Sophie Lacaro, était aussi un symbole fort de dire on continue.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le 13h de Jean-Pierre Pernaut est fabriqué presque de manière particulière, avec presque des équipes dédiées, parfois en collaboration avec la presse régionale, c'est ça?
80% du journal de 13h est fabriqué en région. avec une petite partie de la rédaction parisienne qui produit du news, parfois, ou lorsqu'il est envoyé sur le terrain. Mais pour l'essentiel du succès, c'est vraiment cette capacité à drainer l'actualité en région, mais pas que l'actualité. C'est les modes de vie, c'est les terroirs, c'est les traditions, c'est aussi certaines modernités, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses modernes qui se passent en région, et heureusement. Et donc, tout ceci irrigue finalement notre journal et c'est important de préserver ce lien.
Voilà. Elle est dans quel état, Marie-Sophie Lacaro ?
Mais écoutez, c'est une femme de caractère. Alors, elle est comme ça, très sympa, très douce.
Non, mais là, en ce moment, parce que c'est une accélération
voilà,
de vie.
Là, elle est, je pense, très impatiente de nous rejoindre. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Il se trouve que je crois qu'elle a passé son week-end en famille dans le sud-ouest, justement. Ouais. Elle est repartie tout de suite vers ses racines. Et on l'attend avec impatience. Non, elle est à la fois stimulée, j'ai des reconnaissantes aussi de ce choix. Et donc, voilà. Et on l'attend avec impatience parce qu'on veut commencer très vite ce travail.
C'est toujours amusant de réécouter à la faveur de ce qu'on sait, une ancienne archive. C'est une archive qui date d'il n'y a pas longtemps, c'était jeudi. Parce que France 2 a décidé dès jeudi de se séparer de Marie-Sophie Lacaro, donc le jour même de l'annonce de son départ pour TF1. Elle n'a même pas fini la semaine aux 13h. Son dernier JT de 13h, c'était donc jeudi et non pas vendredi. Alors écoutez, c'est marrant de réécouter la fin de son journal avec la petite hésitation, comme si elle se demandait si elle allait être là le lendemain ou pas.
Je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à demain, 13h.
À demain, 13h. Bon, bah, guettez pas. Jean-Pierre Pernaut veut faire quoi ?
Jean-Pierre, il a...
Alors, moi, je vais vous dire le titre que j'ai vu. On l'annonce dans les opérations spéciales. Pardon de vous dire ça. C'est pas un peu un placard ? C'est pas un peu ce qu'on dit quand on veut se débarrasser de quelqu'un ?
Non, parce que justement, il n'y a pas que ça, mais je vais le décliner. Et puis, les opérations spéciales, vous savez, il a créé deux opérations spéciales dans le 13h. SOS Village, le plus beau marché. C'est des opérations très lourdes, très importantes, très populaires. Et en accord avec Marie-Sophie et Jean-Pierre, on va les poursuivre avec Jean-Pierre. Mais par ailleurs, on a plein d'autres projets. Et d'ailleurs, je me demande s'il va cesser de travailler un jour, mais plein de projets. D'abord, il va créer une web TV. On y tient en tout cas, JPP TV, sans doute.
Où c'est Jean-Pierre Papin qui a les droits. Hein, il n'aura pas le droit.
Il l'a déposé, je crois, ouais. Jean-Pierre Pernaut. Et Jean-Pierre donc a plein de projets sur le web parce que il a une touche, il a une histoire, il a un public, il a un lien populaire. Donc on va le faire avec lui. On va créer un magazine autour des terroirs, de découvertes aussi des régions, dans la case de dimanche, ou de samedi ou du dimanche de reportage.
Qui suit le 13h.
Donc, vous voyez, ce sont des projets très lourds dont on va commencer à parler. Je l'ai vu ce matin pour tout vous dire avant de venir. On a commencé à dire, il faut mettre ça en œuvre, il faut organiser les équipes pour commencer à phosphorer. Dès le mois de janvier, hop, il sera dans son mode, dans son autre mode de collaboration avec TF1.
Un mot sur ce magazine du samedi ou du dimanche que vous nous annoncez. Il sera à l'antenne ou simplement il sera le maître d'œuvre ?
Non, il sera, lui, à l'antenne. Il apparaîtra à l'antenne.
On le verra.
Oui, on le verra, parce que c'est pour moi très important de le voir. Jean-Pierre est un formidable professionnel et je le salue parce qu'il n'y a pas beaucoup comme ça qui, au fait de leur gloire, finalement, décident de changer de vie professionnelle, d'une certaine manière. On a absolument besoin de lui sur nos antennes à TF1.
On a des noms de gens qui ne voulaient pas quitter l'antenne au fait de leur gloire. On ne va pas les citer ici par charité. Tout à fait autre chose. Barbara Pompili, ministre de l'Environnement, souhaite bannir certains domaines de publicité à la télé. Les voitures à moteur à explosion, c'est-à-dire diesel-essence, les produits à base d'huile de palme, je salue Nutella, les fast-foods, les goûters trop sucrés, et même les offices de tourisme comme la Martinique et la Guadeloupe, et les compagnies aériennes, si j'ose dire. Réaction ?
Écoutez, réaction, d'abord, c'est pas la première fois que le groupe TF1 accompagne les évolutions de la société, si vous voulez, parce que il y a eu quand même beaucoup de progrès, notamment dans les écrans publicitaires qui tiennent compte un peu de la santé des Français. Donc, c'est pas une première. La seconde, je voulais vous dire, c'est que malgré tout, il y a des discussions en cours. Et là, on touche quand même au modèle économique des chaînes privées, du secteur privé de l'audiovisuel et radio. D'ailleurs, vous êtes directement concernés. Et il faut savoir que ce modèle économique finance des rédactions, une information forte, finance des fictions, des milliers d'emplois. Et donc je pense que pour le moins, il faut de la concertation, des échanges avant de prendre des décisions un peu trop radicales. Et je pense qu'on n'en est pas là. Heureusement, il y a des discussions en cours entre les grands groupes de télé et les autorités gouvernementales. Et je souhaite qu'effectivement, toutes les voix soit entendu afin d'arriver à une solution acceptable pour tout le monde.
Merci beaucoup Thierry Tullet, je rappelle que vous êtes le patron de l'information de TF1. Merci d'avoir choisi Culture Média pour vous expliquer.